France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui, la chanson sous l'occupation. Mon boulot, c'est de chanter quoi qu'il arrive. Édith Piaf, en 1940. Deux mille ans d'histoire. Il ne gardait pas les juifs au Veldiv, ne traquait pas les résistants dans le Vercors et ne portait pas l'uniforme SS des Français de la division Charlemagne. Leur boulot, c'était de chanter, comme disait Édith Piaf, et de chanter quoi qu'il arrive. Et quand les Allemands sont arrivés, ils ont continué de le faire comme si de rien n'était, même devant les soldats de la Wehrmacht, qui préféraient être affectés en France plutôt que d'être tués sur le front russe. Ils pouvaient y voir danser les filles du Lido ou du Tabarin et entendre au Casino de Paris ou à l'ABC les vedettes de la chanson française de l'époque, Édith Piaf, Charles Trenet, Maurice Chevalier, Mistinguette, Suzy Solidor, Tino Rossi et Léo Marjan. Après la défaite et l'exode de 1940, il fallait bien gagner sa vie, même pour distraire celle des Allemands. À Paris, dès le début de l'occupation, ils étaient comme chez eux, jusque dans les studios de la radio préférée de la collaboration.
Mesdames, messieurs, à l'intention des nombreux Parisiens qui croient ne plus retrouver leur Paris, Radio Paris a fait un reportage dans les différents quartiers de la capitale. Et nous avons constaté que la vie a presque normalement repris. Les cinémas sont ouverts, les terrasses de café sont pleines de monde, les théâtres, cabarets plutôt, sont déjà réouverts et les dimanches, les gens font queue devant les guichets. On sent que, au fond, rien n'est changé, à part dans les rues, l'uniforme des troupes allemandes se mélange avec les robes d'été des jolies femmes. Si on était celui qui rentre de dehors, il ne trouvera pas un changement dans la capitale française.
La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. Il y a des pigeons sur l'opéra. Et il y a toujours deux tours à Notre-Dame. La Seine est encore dans son lit. Et le chrono n'a pas...
Et oui, comme le chantait Mistinguette en 1941 au Casino de Paris, la tour Eiffel était encore là et la quasi-totalité des chanteurs français aussi, malgré la défaite de 1940. Pendant 4 ans, ils ont continué de chanter dans les cabarets et les music-halls de la France occupée. Est-ce que c'était de la collaboration, André Halimi? C'est ce que vous écriviez en tout cas il y a quelques années dans un livre qui a fait beaucoup de bruit, « Chantons sous l'occupation ». Est-ce que chanter, est-ce qu'on pouvait faire autre chose que chanter?
Eh bien, d'abord, chanter, c'était faire plaisir aux Allemands. Hitler, Göring, Goebbels avaient dit que Paris devait rester une ville gaie. Ils devaient s'y amuser. On y envoyait des soldats méritants. D'autre part, oui, on pouvait chanter, évidemment, mais chanter pour quel public? L'avocat Maître Nau, qui était en service commandé dans un cabaret qui s'appelait Chez Gilles, me racontait qu'il y avait des Allemands qui composaient les 3/4 de la salle. Alors on baptisait et on s'est pressé pour baptiser parce que il y a quand même des gens qui n'ont pas attendu 2 mois. 2 jours après Paris occupé, les menus étaient en allemand. Il y avait donc un intérêt pour l'argent excessif et qui n'est pas digne d'un patriote.
Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Martin Penet, avec ça. Il faut rappeler quand même qu'on n'a pas attendu, bien sûr, la guerre pour chanter. On chantait avant, et dans un livre, La mémoire de la chanson, au chapitre justement de cette époque, de l'occupation, vous rappelez qu'avant la guerre, c'était les mêmes qui chantaient, mais qui chantaient tout à fait autre chose, notamment pendant l'époque de la drôle de guerre, c'est-à-dire entre le début de la guerre en septembre 1939 et l'arrivée des Allemands en mai-juin 1940. 40. Et là, en revanche, ils chantaient tous, mais des chansons très engagées pour encourager l'armée française, Martin Penney.
Oui, c'est vrai que durant la Drôle de Guerre, on a vu fleurir tout un tas de refrains. Par exemple, Maurice Chevalier qui chantait « Ça fait d'excellents Français au Casino de Paris » en novembre 1939. Mais aussi « Mon petit kaki » chanté par Lucienne Boyer. « Bonjour Tommy », c'est-à-dire que là, on saluait les alliés comme en 1914. « It's a long way to Tipperary » par Ray Ventura ou Léo Marjane. Et Georgius qui chantait « Le travail du pinceau » où il brocardait Hitler. Donc ça, c'était encore possible pendant la Drôle de Guerre.
Et ils étaient tous très célèbres déjà, ceux que l'on reverra à Paris, ce dont nous allons parler aujourd'hui.
Oui, bien sûr, tous les gens que je viens de citer avaient commencé leur carrière bien avant la guerre.
Et on les retrouvait dans des cabarets, donc, fermés, ou dans des music-halls, fermés dès le 20 juin 1940 pour cause de guerre par le ministre de l'Intérieur Georges Mandel, et rouverts quelques jours à peine après la défaite et l'armistice de 1940, mais pour un public et des chansons très différents de ceux d'avant-guerre.
Vergnügungen, Variété, Casino de Paris, mit sensationellen Attraktionen und den hübschesten Frauen von Paris. Im Lido, Dîner souper, Champs-Élysées, die neue große Revue, Paris en fleurs. Nach der Revue, großes Kabarettprogramm.
Le rideau se lève et sur la grande scène restée obscure du casino, Suzy paraît. Sous les feux croisés de deux projecteurs, elle s'avance jusqu'au proscenium. Grande, mince, roulée par une robe noire qui laisse ses épaules et ses bras nus, son beau visage rendu encore plus lumineux par ses cheveux d'or, Suzy Solidor fait penser à une belle figure de proue.
Et voilà ma dernière création, Lily Marlène.
En descendant la nuit, la vieille lanterne, où j'allume lui, c'est dans ce coin-là qu'elle croit, on s'attendait, rempli de toi, tous deux, Lily Marlène, tous deux, Lily Marlène.
Alors chanter à Paris la chanson préférée de l'armée allemande devant un public allemand pendant l'occupation, c'était en 42 de surcroît, c'est-à-dire au moment de la rafle du Veldiv, ça c'était quand même de la collaboration, Martin Penney.
Oui, c'est-à-dire que Suzy Solidor a décidé de chanter cette chanson Lily Marlène en version française, au même titre d'ailleurs que d'autres chansons allemandes traduites aussi à cette occasion. Et c'est évident que dans son cabaret La Vie Parisienne, le public était composé en grande partie d'officiers allemands, mais aussi de Français, on va dire, suffisamment aisés pour pouvoir fréquenter les cabarets, parce que le prix d'entrée n'était quand même pas spécialement favorable. D'ailleurs, un petit détail, c'est que le taux de change était très favorable aux Allemands, ce qui explique aussi pourquoi les soldats pouvaient aussi facilement aller au spectacle durant l'occupation.
Mais Suzy Solidor ne s'est pas contentée de chanter.
Andrea Libéry.
Elle a prouvé sa sympathie pro-allemande. D'ailleurs, elle a été condamnée à la libération.
Oui.
Donc c'était pas seulement une chose.
Elle l'a prouvé de quelle manière, indépendamment du fait qu'elle chantait.
Par des écrits, par des adhésions aux journaux fascisants de l'époque.
Il y a eu un petit problème.
Elle a été condamnée à 4 ans de prison.
Je crois que plus exactement, elle a été interdite de rouvrir un cabaret pendant 5 ans à son nom. Et donc effectivement, ça lui a posé un grave discrédit. Et interdit d'enregistrer pendant 1 an, comme beaucoup d'artistes qui sont passés devant les comités d'épuration.
D'extraordinaire.
Elle n'a pas fait de prison.
Vous le rappelez tous les deux. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est à l'époque le succès des cabarets, des musicals. Ils sont archi pleins, pas seulement d'ailleurs par des Allemands. Et nous sommes en période justement de restrictions. À l'époque, les Français ont du mal à vivre ou à survivre, à se nourrir. Et les cabarets sont pleins, d'ailleurs comme les cinémas.
Oui, mais alors donc on avait deux types de publics. Hein, comme il y avait les Allemands, il y avait des Français qui pouvaient sortir, mais il y avait aussi des résistants. Et ça, plutôt vers la fin de la guerre. J'ai une anecdote à vous citer qui est quand même assez.
Vous le prouvez.
Ça, justement, j'ai une anecdote que je trouve assez caractéristique de cette époque complexe hein, finalement. C'est que j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Cordier, donc qui était le secrétaire de Jean Moulin, fondateur du Conseil national de la résistance. Donc après l'arrestation et la mort de Jean Moulin, Daniel Cordier est resté officier radio au CNR. Et à la fin 1943, comme il avait une position un peu trop dangereuse et qu'il était devenu identifiable, il a été mis en congé. avant de pouvoir rallier la France libre. Et donc, il est resté plusieurs mois à Paris et il m'a raconté qu'il allait au spectacle parce qu'il avait besoin de se détendre. Il allait notamment chez Suzy Solidor. Il regardait très tranquillement le spectacle avec un certain plaisir, tout en voyant les soldats allemands, pardon, les officiers allemands qui étaient là et en pensant que dans quelques mois, sans doute, ces officiers ne seraient plus là et qu'ils seraient même peut-être tués. Mais ça l'empêchait pas d'aller au spectacle.
Il ne savait pas ce qui se passait en tous les cas.
J'étais très étonné en regardant un documentaire que vous avez fait, André Halimi, où l'on voit le beau-frère de Robert Brasillach, qui était plutôt favorable à la collaboration, en tout cas Brasillach l'était, Maurice Bardèche, qui disait, mais nous-mêmes, qui étaient pourtant plutôt proches des pétainistes et même des collaborateurs, ou des deux en même temps, et qui disait, nous-mêmes, nous n'aimions pas beaucoup ces fêtes, les gens qui traînaient dans les cabarets.
Ah, il condamnait le tout Paris, comme la gauche caviar aujourd'hui. Mais c'est vrai que les Allemands avaient su manipuler l'intelligentsia d'une façon très habile en leur faisant miroiter des postes, des voyages, des éditions. Il y avait quand même... Et puis, alors, tout à l'heure, vous parliez des réussites, mais il y avait beaucoup d'argent à cette époque. Beaucoup d'argent, il y avait le marché noir, il y avait des escrocs qui se remplissaient les poches... et qui se disait français, qui était suspect.
Et qu'on retrouvait justement dans les cabarets où se produisaient presque toutes les vedettes de l'époque.
Paris. Mistinguette. Suzy Solidor. Et le nouveau et amusant tandem, Bordaz-Charpigny.
André Caveau.
Vous êtes tout d'un nu.
Dino Rossi.
Un simple nom, et dans ce nom, toute la chanson. Voici Edith Piaf.
Où sont-ils, tous mes copains, qui sont partis un matin faire la guerre? Où sont-ils, tous ces petits gars, qui chantaient on en reviendra, faut pas s'en faire? Les tambours et les clairons accompagnent leurs chansons dans l'aube claire. Où sont-ils?
Où sont-ils les petits gars? C'était Edith Piaf en 1941. Elle a chanté pendant toute la durée de la guerre. C'est une période qu'elle évoquait rarement ultérieurement. Cela dit, c'est une des rares chansons qui évoquait la guerre. La chanson, de façon générale, Martin Penney, elle est plutôt intemporelle. Ou si elle évoque cette période-là, c'est pour évoquer la vie quotidienne, les semelles de bois chantées par Maurice Chevalier. Il n'y a pas tellement de chansons qui évoquent la guerre.
C'est-à-dire que quand j'ai fait mémoire de la chanson, j'ai donc consulté énormément de partitions de l'époque et constitué un corpus quand même assez considérable sur cette période troublée. Et j'ai constaté effectivement que la plupart des chansons évoquent l'absence des prisonniers, notamment. Les restrictions de la vie quotidienne et puis beaucoup de chansons exotiques parce que on n'a jamais autant chanté l'Amérique du Sud, la Pampa, etc. Parce qu'on avait besoin vraiment d'essayer de penser à autre chose. Et c'est vrai que les chansons strictement liées à la guerre, mais pas sur le plan du ressenti personnel, mais sur le plan des circonstances, sont assez rares. Il y en a pendant la Drôle de Guerre, il y en a beaucoup après la Libération, ou au moment de la Libération, mais durant l'occupation, il n'y en a pas énormément, finalement. Alors, il y a le bar de l'escadrille, par exemple, et puis celle qu'on vient d'entendre.
Alors, Edith Piaf, c'est quand même surprenant de la voir.
Il fallait se donner bonne conscience, il y avait des hommages à la terre qui sent si bon.
Ça, c'est les chansons fichistes. Oui,
oui, mais il y en avait pas mal. Oui.
Edith Piaf, quand même, est allée, elle a chanté en France, elle a chanté en Allemagne. Certes, c'était pour des prisonniers de guerre, ces petits gars qu'elle chantait justement dans cette chanson, mais quand même, c'est allé assez loin dans la voie de la collaboration, parce que je crois qu'elle a été reçue par les autorités allemandes.
Les Allemands ont pigé que la collaboration dans le domaine de la chanson n'était pas très grave. Au contraire, les chansons allemandes ont été adaptées en France. Donc, il y avait une sorte de dommage à la chanson allemande.
Alors, il y avait des degrés dans la collaboration, bien sûr, vous le rappelez tous les deux. Edith Piaf, ce n'était pas Suzy Solidor. Et chanter en zone nord occupée, ce n'était pas pareil que de chanter en zone sud, qui n'a pas été occupée jusqu'en 1942. C'est là, d'ailleurs, qu'un jeune débutant inconnu a fait ses débuts. C'était Yves Montand, à Marseille, Martin Penney.
Oui, parce qu'en fin de compte, je dirais même dès le début de l'occupation, enfin, dès la débâcle, même avant le début de l'occupation, beaucoup d'artistes ont suivi l'exode et se sont réfugiés dans le sud, où ils sont restés pour un certain nombre. Et il y a donc toute une vie artistique qui s'est organisée autour des grandes villes de la zone non occupée, comme Nice, même d'autres villes de la Côte d'Azur, mesure, Marseille, Lyon, et à Marseille en particulier, où on a retrouvé beaucoup d'artistes comme Ray Dacker, Georges Tabet, Paul Misraki, René Lebas, enfin tout un tas de gens se sont produits là. Et donc, ça a créé une sorte de nouveau pôle de la chanson. Bon, Marseille a toujours été une ville favorable à la chanson. Il y a toujours eu des tas de musicaux à Marseille. Mais là, ça a encore renforcé cet aspect. Et Yves Montand, qui était vraiment un artiste méridional au départ, a fait ses débuts à Marseille. Il a chanté, par exemple, dans les plaines du Far West. On est encore dans l'exotisme, puisque cette chanson, il l'a chantée en 1941 à Marseille. Et puis, il est venu à Paris à la toute fin de l'occupation, en 1944, où d'ailleurs, il a rencontré Edith Piaf à ce moment-là.
En zone sud, où sont créés...
Il faut dire aussi que les auteurs-compositeurs juifs, on ne l'a pas dit, les auteurs-compositeurs juifs étaient interdits. Oui. Ils devaient utiliser des pseudonymes. Ou même partir.
Ah oui, alors qu'il y a les artistes qui sont exilés, hein, effectivement, oui. Comme Marianne Oswald qui est partie à New York, alors, Agnès Capri qui est partie à Alger.
L'auteur qui n'était pas juif devait fournir un certificat.
Alors c'était des chansons, on l'a dit, qui étaient généralement, qui évitaient de parler de la guerre. Parfois, certaines étaient engagées en zone sud, justement. C'est tout un type de chanson qu'on n'entendra pas dans cette émission, mais à la gloire du régime de Vichy. Hein. C'était évidemment Maréchal, nous voilà, de Montagnard et de Couriou. La marche des jeunes de Trenet aussi, hein, qui fait qui confirme son talent des années 30 pendant la guerre et même en chantant une chanson un peu ambiguë, la marche des jeunes.
Il n'enregistrera qu'après la guerre. Il n'est pas allé jusqu'à l'enregistrer pendant la guerre, justement. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était la marche des jeunes, effectivement. Il a laissé à d'autres le soin de l'enregistrer en 1942.
Et tandis qu'au Nord, eh bien, à Radio Paris, la présence du plus célèbre chanteur français de l'époque allait inspirer une parodie de Pierre Dac à la radio de Londres.
L'important, c'était drôle. Maurice Chevalier, notre Maurice national, est rentré dans la capitale et a tenu à reprendre aussitôt contact avec les auditeurs de Radio Paris pour lesquels il chante ses dernières créations.
Si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir en chantant comme ça, trim-pa-poum, palace, notre espoir. C'est moi qui fais ça.
Le créateur de cette chansonnette,
Pierre Dac,
passé jadis pour un vrai chevalier, d'autres encore parmi tant de grosses têtes ont dans l'épreuve complètement perdu pied. On les croyait très bien, ils étaient moches, et c'est ainsi qu'ils se sont révélés, en préférant faire des sourires aux boches, par calcul ou stupidité. Et tout ça, ça fait de mauvais Français, pour lesquels il n'est que le porte-monnaie. Faut savoir être opportuniste afin de sauvegarder ses petits intérêts.
Et c'était Pierre Dac à la BBC, pas tendre pour Maurice Chevalier, hein, et disant au fond que c'était de l'intérêt tout ça de continuer à chanter. Vous êtes d'accord avec ça, André Halimi, que de continuer à chanter en France pendant l'occupation? Alors là, c'était à la radio, ça. Il n'y a pas qu'au cabaret que l'on chante, et pas seulement, donc, on l'a entendu à la radio, à Radio Paris ou à Radio Vichy, mais aussi à la BBC. Est-ce qu'elle était écoutée, Martin Penney, cette radio?
Apparemment, elle était quand même écoutée, notamment l'émission Les Français parlent au français, qui était à 20h, je crois. Elle était écoutée clandestinement, bien évidemment, mais de plus en plus.
C'était un danger.
Oui, au tout début, non, mais de plus en plus, elle a été écoutée. À la fin de l'occupation, je crois qu'elle était pas mal écoutée. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, le document que vous venez de diffuser, donc c'est Pierre Dac, puisqu'il est arrivé à Londres après bien des péripéties fin 43, et donc il a pris la suite de Maurice Van Meppes, qui écrivait des chansons sur des airs connus, des chansons justement anti-allemandes, mais aussi pour soutenir le moral des Français, mais en essayant les convaincre que la France libre pourrait un jour remporter la guerre avec l'aide des alliés. Et donc, c'était une façon différente de soutenir le moral, bien évidemment. Et donc, toutes ces chansons donc, ont été écrites durant l'occupation, jusqu'au moment où Pierre Dac a pris le relais. Et il s'est engagé une espèce de duel radiophonique entre Pierre Dac à la BBC et Philippe Henriot à la Radio Paris, qui lui était presque le Goebbels français. Donc il y a eu vraiment des duels radiophoniques incroyables. Et on conserve les archives de ça.
Dans les lettres de délation, il y avait beaucoup de dénonciations de
gens qui écoutaient la radio.
Absolument, Radio Londres.
Vous étiez venu nous en parler déjà à cette antenne, André Halimi. Alors, effectivement, vous les citez, vous, Martin Penet, dans votre livre, il y avait le fameux Radio Paris Mans, Radio Paris Mans,
ça,
Radio
c'était
Paris
dès le début, le tout début.
Ça, c'était Oberlé.
Oui,
alors,
Berlé.
Réponse de Radio Paris sur l'air de Auprès de ma blonde. Au jardin d'Angleterre, les bobards sont fleuris, tous les menteurs du monde parlent à la BBC. Au gré des ses ondes, qu'il fait bon, fait bon. Au gré de ses ondes, qu'il fait bon mentir.
Oui, puis il y a même eu la chanson des V qui a été qui a incité les résistants à faire des V de victoire sur les tracer sur clandestinement bien évidemment sur les murs, et donc c'était sur l'air de la 5e symphonie de Beethoven, donc c'était quand même c'est quelque chose qui a beaucoup marqué aussi. Hein.
Est-ce qu'il y avait une censure dans le domaine de la chanson? Est-ce qu'elle était importante, André Halimi?
Non, il y avait aucune censure.
Aucune censure. Aucune censure. Ah, vous ne pouvez quand même pas chanter le chant des partisans sur Radio Vichy ou Radio Paris.
Les Allemands se désintéressaient de la chanson. Il n'y avait pas ce culte comme en France de la chanson bien écrite, Mireille, Nohain. Ouais. Il n'y avait pas du tout ça. Il y avait la chanson pour eux, c'était le musical, ça devait être gay, ça devait être arrosé de champagne si possible. Et ils étaient très libres. Ils étaient très très libres. D'ailleurs, il faut voir la liste des chansons qui ont été chantées. C'était pas des chansons d'une grande qualité.
Bah, très libre, effectivement, il faut le croire, puisque la censure fermait les yeux sur un genre musical venu d'Amérique et détesté par Hitler. Encore une musique dégénérée, comme le disaient les nazis, et puis leurs collaborateurs comme Jacques Doriot, qui préféraient voir des jeunes Français dans l'uniforme des SS de la division Charlemagne plutôt que dans la tenue débraillée de ce qu'on appelait les Azous.
Ne sait-elle pas notre jeunesse que si elle ne combat pas la jeunesse d'Europe qui donne son sang à flot sur le front de l'Est, n'aura que mépris pour elle. Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance!
Les cheveux tout frisottés, le col haut de 18 pieds. Ah,
ils sont zèbres.
Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne, traîne par terre.
Ah, ils sont zèbres.
Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe qui arrivent un peu au-dessus des genoux. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, ils ont un parapluie, des grosses lunettes noires et puis surtout.
Ils ont l'air dégoûtés de tous ces petits agités.
Oh,
ils sont zazous.
Un jour, un brave notaire de son pays débarquant venait pour de grosses affaires de legs et de testaments. Il avait l'allure très digne, mais comme les modes de maintenant ont à peu près la même ligne que celle de 1900. De jeunes azous s'écrièrent en apercevant
ce qu'il fait distinguer son col haut de 18 pieds.
Oh.
Et Johnny S, qui n'était pas résistant, mais qui chantait les Azous. Hein, c'était une mode un peu débraillée. C'était presque les blousons noirs de l'après-guerre.
Oui, enfin, en moins violent. Mais ouais. C'était très, très exubérant. Je crois qu'en fait, surtout, c'était une forme d'anticonformisme et d'hostilité vis-à-vis à la fois de l'occupant et de l'ordre moral prôné par Vichy. Et puis, bon, de toute façon, la jeunesse, par définition, est un peu turbulente. Donc, à ce moment-là, il y avait deux héros du mouvement Zazou. C'était dans la chanson, c'était Johnny S qu'on vient d'entendre et Irène de Trébert.
Ce qui est extraordinaire, c'est que vous le rappelez aussi, Martin Penet, ça a été la grande époque du jazz, du swing qui venait d'Amérique et que n'aimaient pas du tout les nazis. Comment ça se fait, ça?
Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'il y a eu un succès, effectivement, inattendu du jazz français qui s'est développé en vase clos à cette époque, et même de façon extrêmement florissante. Avec l'idole, par exemple, c'était Django Reinhardt, et les vedettes, c'était Alix Combelle, Aimé Barelli, voire Raymond Legrand. Et donc, il y a des facteurs quand même. C'est d'abord l'engouement d'une jeunesse en manque de repères, la mise en place d'un certain nombre de structures comme le Club de France, et puis l'interdiction des compositeurs juifs comme Gershwin, puis américains après l'entrée en guerre des États-Unis, a fait que ce sont les artistes, français, comme ceux que je viens de citer, qui se sont exprimés en composant des morceaux de jazz.
C'était une façon de réagir à l'ordre moral. Mmh. Simplement, c'est une révolte des gens qui bougent, des gens neufs qui sont séduits par l'Amérique. par rapport à une chanson qui est vieille un petit peu.
Et c'est là qu'il faut distinguer les vues de l'État français et des Allemands. Hein. Ils ne réagissaient pas de la même manière par rapport à ça.
André Halimi, on vous a beaucoup reproché dans Chantons sous l'occupation, qui est un excellent livre, très instructif, on apprend des tas de choses, de ne pas avoir évoqué ou rappelé que tous les chanteurs français n'ont pas chanté en France à l'époque. Il y en a qui sont partis, soit parce qu'ils étaient juifs, comme Ray Ventura, soit parce qu'ils se sont engagés dans les forces françaises libres. Je pense à Anna Marley, le chant des partisans, qu'elle chante en Angleterre, ou encore Geneviève Sablon, et qu'elle compose. Joséphine Becker, qui est partie dans les forces françaises libres.
Oui, oui. Oui, mais on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas réagir. Ou bien on partait, on désertait pour pouvoir gagner de l'argent aux États-Unis. Mais on n'avait pas le choix. Si un chanteur qui collaborait était un chanteur, malheureusement, qui le payer plus tard.
Et ce n'était pas le cas de Joséphine Becker, qui a refusé de collaborer, qui s'est engagée dans les forces françaises libres et qui retrouvait Paris libéré en 1944 au micro de ce qui n'était plus Radio Paris, mais la radio française.
Vous pensez souvent à la France ?
Oh, beaucoup, tout le temps. On pense surtout à ceux qui étaient restés en France, qui malheureux, si malheureux, avec la peur, l'angoisse, les privations, l'horreur de ne pouvoir faire ce qu'on voulait, le martyr pour tant de Français.
Et maintenant que vous êtes en France, êtes-vous contente d'avoir retrouvé Paris ?
Mais oui.
Joséphine Becker en 1944 dans Paris libéré, retrouvant non seulement la France mais aussi des chanteurs qui y étaient restés et qui n'ont pas tellement souffert de l'épuration, elle n'a pas été tellement sévère, Martin Pénel.
C'est vrai que la chanson étant considérée comme pas extrêmement sérieuse, donc c'est vrai que les peines maximales infligées aux artistes, ça a été un an d'interdiction d'exercer leur profession ou d'enregistrer, mais on n'a fusillé aucun artiste chanteur, à ma connaissance. Donc,
ils ont fait une belle carrière après, ils ont continué faire. Hein.
Oui,
je pense à Trenet, Montand, qui était à ses débuts pendant l'occupation, Edith Piaf, n'en parlons pas, c'est assez singulier. André Halimi.
Oui, mais chanter n'était pas grave, c'est, comme je disais tout à l'heure, ça dépend pourquoi, pour qui, pour quel cause.
Oui, mais justement, ils chantaient devant des Allemands qui les occupaient, et on les retrouve après la guerre, comme si de rien n'était.
Les Allemands adoraient plutôt les chansons affriolantes,
oui,
avec des finus dans les cabarets comme le Tabarin. Mmh. Ils n'allaient pas écouter des concerts de chanteurs français.
Mais c'était quand même les avoir encouragés, vous le disiez vous-même. Ils rêvaient au fond de venir à Paris plutôt que d'être envoyés sur le front russe.
Oui, ça c'est
c'était
évident.
Une récompense. Paris était une récompense.
Mais je crois quand même que l'épuration avait des critères quand même assez précis. Il y a quand même des degrés dans la compromission. C'est évident que aller chanter en Allemagne dans des voyages organisés officiels, aller se produire trop souvent à Radio Paris ou chanter dans des galas pour des mouvements collaborationnistes comme la FVF.
Et participer à des collaborations politiques comme les dimanches et le samedi de l'ambassade d'Allemagne.
C'est pas la même chose que simplement
chanter. Les artistes français se précipitaient pour y aller.
Merci André Halimi. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, du documentaire et du livre Chantons sous l'occupation, publié chez L'Harmattan. Et vous, Martin Pennet, vous avez réuni des milliers de chansons françaises sous le titre Mémoire de la chanson, publié en 2 volumes aux éditions Omnibus. Et puis vous avez également assuré la direction artistique du disque Suzy Solidor au cabaret. Enregistrements rares et inédits, une coédition La Belle Chanson INA que l'on peut se procurer sur le site labellechanson.free.fr. À lire également La Vie musicale sous Vichy, dirigée par Myriam Chimène, publiée chez Complexe, et Paris Musique, 8 siècles d'histoire de Marie-Christine Villa aux éditions Parigramme. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Serge Vidier, Olivier Daligo, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gilry et Franck Olivard, et à notre réalisatrice Anne Comilac.